Salut, c'est Dorian et Mathieu, et vous écoutez Radio Pont. Salut Mathieu.
Salut Dorian.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter la deuxième revue de presse des secondes d'accro du lycée Émile Combes.
Au programme de ce début d'année, la nouvelle Apple Watch, la traque des hackers, l'intelligence artificielle qui continue de se développer, la saga Star Wars revient-elle en force, et Jessica Wara, une femme engagée.
Allez, commençons par Axel et Mathieu qui vont tout nous dire sur la nouvelle Apple Watch, de plus en plus sophistiquée.
Souvenez-vous de la première Apple Watch sortie en avril 2015. Elle présentait déjà diverses fonctionnalités comme le capteur de rythme cardiaque par exemple. Le magazine Micro Pratique d'août 2015 nous parlait de l'interface de cette montre qui était simpliste. Dans cet article, on pouvait lire les descriptifs techniques qu'il fallait un iPhone pour la paramétrer. Quelles étaient les meilleures applications compatibles parmi les 6000 disponibles sur l'Apple Store. Sur la même page, on avait aussi son mode d'emploi ainsi que la prise en main. Bref, elle était montrée sous toutes les faces.
Et bien voici qu'une nouvelle génération d'Apple Watch est née. C'est à lire dans le magazine 01.net du 13 décembre dernier. L'Apple Watch série 3 reprend ses deux prédécesseurs, la série 1 et la série 2. Elle embarque un écran de 3,6 pouces, elle possède 16 Go de stockage interne, elle est étanche et dispose de la 4G. Grâce à elle, plus besoin de son iPhone pour passer des appels ou envoyer des SMS. On peut se la procurer en plusieurs coloris, or, rose et gris sidéral. Elle est équipée d'un bracelet interchangeable qui va de 59€ pour un modèle en tissu et jusqu'à 609€ pour le bracelet en métal. Champion de sa catégorie, elle a obtenu 8 sur 10 au test du laboratoire. Elle a bien d'autres atouts, alors si vous voulez en savoir plus, lisez le numéro 877 du magazine 01.net.
Continuons avec une traque de plus en plus difficile, celle des hackers du net, avec Léonie, Benjamin et Mathieu.
Les gangs 2017 ne se nomment plus la bande à Bono ou French Connection, mais Lazarus, Armada Collection ou Shadow Brother. En France, le nombre d'infractions a explosé, passant de 2700 en 2013 à 9800 en 2015, raconte Sébastien Porte dans le magazine Ça m'intéresse, de décembre dernier. Aujourd'hui, nous subissons une telle quantité d'attaques qu'il est difficile de faire autrement que de réagir comme le font les autorités qui mobilisent des moyens de plus en plus importants. Pouvait-on lire dans The Conversation de mars 2017 ? Sébastien Porte raconte les aventures du personnel des hôpitaux le 12 mai dernier. Pendant la nuit, le virus YannaCry a infecté et paralysé les ressources informatiques des établissements du service de santé britannique. Impossible d'accéder aux dossiers médicaux des patients, à moins de payer une énorme rançon. Conséquences immédiates. Toutes les opérations chirurgicales prévues ont été annulées. Loin d'avoir ciblé uniquement les hôpitaux, cette cyberattaque mondiale a fait près de 200 000 victimes essentielles des entreprises dans au moins 150 pays, a ainsi expliqué Rob Wainwright, directeur d'Europol.
Mais il n'y a pas seulement des attaques d'hôpitaux. Les données essentielles des entreprises sont prises en otage puis libérées contre des rançons payées en Bitcoin, la fameuse monnaie virtuelle. D'après les chiffres d'une étude menée par l'usine Nouvelle et Orange Business Service en 2016, 56% des entreprises industrielles interrogées reconnaissent avoir été victimes d'une cyberattaque, un chiffre en hausse de 5% par rapport à 2015.
Toujours à lire dans Ça m'intéresse, les cybercriminels, des ingénieurs qui ont franchi la ligne rouge. Ce sont des vrais ingénieurs qui ont fait des masters en informatique, sauf qu'à la sortie de leurs études, au lieu de travailler chez Microsoft, ils franchissent la ligne rouge et font x10 sur leur salaire, explique le directeur de Kaspersky France, société spécialisée dans la sécurité informatique.
Il est vrai que dans le monde du cybercrime, le mobile numéro 1 est l'argent. Pour siphonner un compte, les pirates savent comment s'y prendre. Ils utilisent le mot de passe et l'identifiant d'un client en l'attirant sur un faux site bancaire. Selon la méthode du phishing, hameçonnage, ils s'en servent ensuite pour infiltrer le vrai site de la banque. Ils peuvent alors effectuer des virements de compte à compte, d'un pays à l'autre, ou déclencher à distance un distributeur automatique. Le magazine liste quelques hackers comme Adam Mud, 16 ans, qui louait son malware entre 5 et 300€ pour 2 minutes à 8 heures d'utilisation. L'affaire lui a rapporté 450 000€ et 2 ans de prison ferme. Ou bien Marcus Hutchins, le Dr Jekyll et Mr Hyde du hack, cet informaticien britannique a été félicité pour avoir arrêté la propagation du virus rançonneur WannaCry en mai. En août, il a été arrêté à Las Vegas pour avoir créé et diffusé Chronos, un logiciel servant à voler des données bancaires.
Infiltré sur le Darknet, les enquêteurs observent tout. Ce travail de fond s'effectue au quotidien sur les réseaux sociaux, les forums spécialisés et surtout le Darknet, cet Internet non répertorié où s'échangent drogues, armes et images pédophiles. Et quand une attaque est lancée, la priorité c'est trouver sa signature. La police est sur les dents, comme dans la vraie vie, elle effectue des filatures, des perquisitions, des enquêtes de voisinage. Mais cette fois-ci sur la toile. Si j'ai un nom, je peux trouver l'adresse email de la personne et son compte Facebook. Je vais savoir qui elle fréquente, où elle part en vacances. Je peux aussi éplucher sa messagerie, explique Dominique Renard, chef de section au service du cybersécurité de la police judiciaire. Oui, mais les pirates signent rarement de leur vrai nom. Le seul moyen de les démasquer, alors, est leur adresse IP, mais avec plus ou moins de facilité. Si c'est le cas, la justice se saisit de l'affaire et les malfaiteurs sortent du monde virtuel pour vraiment finir derrière les barreaux, conclut Sébastien Laporte.
Savez-vous ce qu'il y a ? Non ? Eh bien, vous allez en savoir plus avec Alexis et Simon.
La naissance de l'IA, intelligence artificielle, a été dévoilée en 1956 lors de la conférence de Dartmouth à l'initiative de Dion McCarthy et Marvin Minsky. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est à Montréal. Le journal Le Monde d'octobre 2017 nous apprenait que Montréal est la capitale de l'intelligence artificielle. Cette capitale possède la plus forte concentration d'emplois, 220 000, liés à la robotique. En termes de chercheurs, elle a de quoi bien assurer avec 250 chercheurs ou étudiants en doctorat dans ce domaine. Elle influence même les personnes politiques comme le ministre des Finances, Bill Morneau. On peut le voir en photo dans le même journal en train d'essayer un casque de réalité virtuelle.
Au fil du temps, l'intelligence artificielle a beaucoup évolué, comme nous l'apprend le magazine Art et Métiers Mag, de novembre 2017. En 1997, le supercalculateur Deep Blue d'IBM a battu Garry Kasparov aux échecs. En 2011, le système Watson d'IBM remporte Jeopardy, le célèbre jeu télévisé américain. Deux faits d'armes très médiatisés, il y en a eu d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence artificielle servait principalement à divertir, mais cette fois-ci, elle débarque aussi en usine. Services financiers, santé, ressources humaines, relations clients. L'intelligence artificielle promet de changer le monde. Avec quels effets ? En France, d'ici à 2025, 3 millions d'emplois pourraient disparaître à cause de l'intelligence artificielle.
Après Alexis et Simon, c'est le retour en force de Théo et Valentin, pas très fans et peu enthousiastes, à la sortie du nouveau Star Wars.
Star Wars, le retour de l'empire du marketing, commenté le journal Sud-Ouest de décembre dernier. Star Wars, les derniers Jedi, est le 8e épisode de la saga et il fait parler de lui, grâce à un budget hors norme. Mais il ne battra pas ses prédécesseurs, la saga Star Wars est comparée aux plus gros films budgétaires du monde comme Avatar, Titanic ou encore Jurassic World. Mais pour l'instant, le Star Wars le plus cher et le mieux accueilli reste Star Wars 7.
Pourquoi ce film divise tant la communauté Star Wars ? On peut lire dans le .pop.fr l'avis de plusieurs fans. On est dépité, c'est l'horreur. Je suis membre du site depuis 2002, je n'ai jamais vu ça. J'ai l'impression d'être dans une cour de récré. Les échanges entre fans vont bon train sur les réseaux sociaux. Ce film a déclenché un débat qui a mis le feu aux poudres, les réalisateurs ayant déçu beaucoup de fans.
Après toute cette technologie, finissons avec Jessica O'Hara, la nouvelle télé-woman sportive, par vos deux présentateurs préférés.
Jessica O'Hara, un appétit de lion. Jessica O'Hara est une joueuse de haut niveau, reconvertie dans l'animation télé. Actuellement blessée, la joueuse suit sa rééducation avec philosophie. Après 7 années passées dans le club de la capitale, la joueuse française rejoint l'Olympique Lyonnais en 2016. Un nouveau défi, cite le journal Sportmag, pour la latérale de 30 ans engagée dans la plus grande équipe d'Europe. En accord avec son club, elle profite de sa blessure pour passer du temps avec sa famille. Une famille importante, car elle lui a transmis cette passion du foot.
Lors de son enfance, elle regardait le foot avec son père et son frère. Elle ne demandait jamais de poupées, toujours des ballons. Titre encore le journal Sportmag. Afin de préparer son avenir, Jessica O'Hara découvre de nouvelles phases du foot aux côtés de Pierre Ménès sur Canal+. Mais la carrière de la joueuse n'est pas finie pour autant. Elle a encore des records à battre malgré son palmarès impressionnant. Avec l'OL, elle a déjà gagné une Ligue des Champions, et une Coupe de France en 2017.
Et c'est ainsi que se termine notre revue de presse. Merci de nous avoir écoutés et merci à Radio pour nous avoir accueillis. A bientôt et place à la suite du programme.